Donc nous avons ce soir un sujet qui est délicat et qui peut éventuellement passionner. Passionner, c'est-à-dire créer des passions. Mais je suis sûr que nous sommes tous raisonnables ici. Donc nous ne serons pas agités de passions diverses. Mais c'est un sujet qui est tout à fait capital puisqu'il il touche à notre relation à l'ensemble du vivre ensemble et de la nation. Et tout ce qui est aujourd'hui débat public et débat politique en relation avec l'Église a trouvé, j'allais dire, quelques rajeunissements avec différents événements qui ont eu lieu. Par exemple, le voyage des 3 ans élus de la région PACA à Rome. J'avais été invité par Mgr Ponthier à y aller, donc j'ai pu participer à l'ensemble de ce débat et de ces rencontres. C'était intéressant de voir comment les élus politiques allaient rencontrer l'Église, et ça s'est vraiment bien passé. Et puis il y a eu l'événement des Bernardins, où le président de la République a expliqué sa propre vision de la relation à l'Église catholique, et j'en parlerai largement, parce que ce discours me semble très important sur l'évolution des relations entre l'Église et l'État français et la France. Donc voilà, il faut essayer de comprendre tout ce qui se passe derrière cela, compte tenu que les limites de la laïcité n'ont pas changé. Même s'il y a des débats et des discussions, la laïcité n'a pas changé. C'est toujours 1905 et c'est ça qu'il faut essayer de faire vivre. Mais il faut voir comment est-ce qu'il y a des changements éventuels des relations entre l'Église et le débat politique plus largement. Alors ce que je vais faire, c'est je vais d'abord rapidement rappeler quelques principes de base qui étaient proposés par l'Église depuis le Concile. Parce qu'il faut rappeler un peu quelques données de ce genre, c'est-à-dire que les débats d'aujourd'hui ne sont pas nouveaux, ils sont anciens, et une sorte de bref rappel sera nécessaire. Ensuite, je partirai du document des évêques français qui a été publié en juin 2016, en préparation avec 8 ou 9 mois d'avance de l'élection présidentielle, parce que là, on a quantité d'indications sur la manière dont l'Église se situe par rapport au débat politique en général. Et puis, j'en viendrai au discours d'Emmanuel Macron aux Bernardins, parce que je pense qu'il renouvelle assez fortement la discussion entre l'Église et la France, la nation française en général. Donc on est, j'allais dire, on est bien servi pour ce soir, on est bien servi pour alimenter ce débat et cette discussion. Alors d'abord dans la tradition post-conciliaire. Bon, c'est une évidence, mais il faut toujours le répéter. Les papes, les évêques ont toujours, depuis le concile, et avant le concile aussi, hein, mais encore plus depuis le concile, insister sur des éléments qui touchaient directement à la politique, quantité de sujets qui ont été discutés, le droit au travail, le droit d'asile, la bioéthique, l'environnement, le devoir d'ingérence, vraiment un tas de sujets de ce type ont été discutés. Et les évêques français, de leur côté, depuis 40 ou 50 ans, ont parlé du chômage, de la drogue, du logement, de la peine de mort, de l'avortement, etc. Vraiment, tous les sujets sociaux ont été discutés. C'est pour ça que quand j'entends des gens qui me disent, finalement, on n'entend l'Église que sur la morale sexuelle, c'est faux, on l'entend peut-être que sur ça, mais ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit. Elle a dit beaucoup d'autres choses que des questions sur la morale sexuelle. Elle a parlé de l'ensemble des questions sociales qui étaient vécues à travers la France. Alors, bien sûr, est-ce que l'Église ne sort pas de son rôle en parlant autant de l'ensemble de ces questions, avec, vous avez peut-être en tête ce qu'on a dit, ce qu'un amiral a dit à un évêque, que l'évêque devrait s'occuper de sa sacristie et ne pas intervenir sur des questions qui, à l'époque, concernaient la bombe atomique. Mais en fait, l'Église, quand elle traite de ces questions-là, elle traite de choses qui la concernent, non pas sur la volonté d'imposer un point de vue, et ça c'est très important, c'est depuis le Concile, elle a une position particulière qui est une parole prophétique qui veut inviter les hommes à agir dans le champ qu'elle souligne. Donc une parole prophétique, ce n'est pas une parole entre guillemets obligatoire, comme ça pouvait l'être avant le Concile, mais je pense que depuis le Concile, c'est bien une parole prophétique et c'est ça qui compte. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui trouvent que ça n'est pas acceptable que les religions s'expriment ainsi sur autant de sujets, mais ça fait partie, ceux qui le critiquent font partie de tout un courant qui est très fort en France, de laïcs au mauvais sens du terme, c'est-à-dire très anticléricaux, qui voudraient que l'Église n'ait pas de parole publique sur la vie française et qu'elle se cantonne de parler à l'intérieur des églises, des questions privées et de morale privée et de morale personnelle. Or ça, il faut absolument défendre le fait que c'est un droit fondamental pour l'Église de s'exprimer en public sur les choses publiques qui concernent l'ensemble du pays. Et en ce sens, elle ne fait pas directement de politique, hein, dans le sens où elle n'entre jamais dans les alliances des partis, elle n'intervient jamais de manière directe dans des élections pour dire de voter pour celui-ci ou de ne pas voter pour celui-là. Il y a une sorte de volonté de garder une certaine distance pour aller au-delà du choix immédiat, aller au-delà et essayer d'insister sur un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, parce que des droits fondamentaux sont directement touchés. Et elle estime, l'Église estime, que dans ces cas-là, il faut intervenir et il faut parler. Donc dès lors que sont en jeu le respect des droits fondamentaux de la personne, l'Église est en droit tout à fait d'intervenir, et elle le fait, d'intervenir dans le débat politique. Alors, évidemment, resterait à déterminer dans quelle mesure les droits fondamentaux de la personne sont ou non en jeu dans des décisions politiques qui sont proposées, mais pour porter ce jugement, ben, on pense que l'ensemble des laïcs chrétiens, des experts qui conseillent l'Église, pourront lui dire que là, on franchit une ligne jaune qui est inacceptable et l'Église doit pouvoir parler pour défendre la situation des personnes en difficulté et dont les droits seraient bafoués. Je cite un texte de Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 76, si jamais vous avez envie d'y retourner. Gaudium et Spes est toujours une constitution très importante. Je cite ceci: Il est juste que l'Église puisse partout et toujours prêcher la foi avec une authentique liberté et enseigner sa doctrine sur la société en utilisant tous les moyens, et ceux-là seulement, qui sont conformes à l'Évangile, quand les droits fondamentaux de la personne sont l'exigent. Voilà. Alors, j'ai dit les moyens conformes à l'Évangile. Bon, ça devrait ainsi calmer les esprits angoissés qui se demanderaient pourquoi l'Église intervient et si elle le fait de manière intempestive. Les moyens conformes à l'Évangile, c'est-à-dire c'est des moyens de paix, c'est des moyens de dialogue, c'est des propositions de discussion, et ça n'est jamais en essayant de contraindre ou de coincer l'adversaire pour essayer de gagner sur lui. Donc il y a derrière cela une vision, j'allais dire, de route de salut que le chrétien peut proposer aux sociétés, au-delà simplement d'une morale immédiate et au-delà absolument de la simple morale sexuelle. Donc une vision très large du rôle de l'Église depuis le Concile Vatican II et dont elle a largement profité, même si ça n'est pas toujours audible. C'est ça la difficulté que l'on pourra éventuellement discuter. C'est pourquoi l'Église n'est pas entendue sur des sujets comme cela. Bon, il y a un problème médiatique, il y a peut-être un problème la manière dont elle s'exprime, etc. Mais ce n'est pas faute de l'avoir dit et ce n'est pas faute que les textes existent. Alors j'en viens à mon deuxième partie que je vais développer un peu plus, qui est le point de vue de l'Église sur ce sujet, et en particulier à partir du texte des évêques de juin 2016, qui, je crois, résume assez bien la position de l'Église en ce moment. Je veux dire, c'est en ce moment, c'est-à-dire ce qu'elle dit maintenant, elle ne le disait pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans, parce que les contextes ont changé. Ce n'est pas qu'elle change sa doctrine, mais c'est que fondamentalement, le contexte maintenant est tout à fait différent d'il y a une dizaine d'années, et donc son langage, à dire, se renouvelle au fur et à mesure où les enjeux sont différents et sont nouveaux. Alors j'ai 7 points. Alors comme ça, je vous les annonce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si jamais vous perdez le fil, vous essaierez de retrouver par le numéro. Donc, premier point, c'est de dire qu'il y a un contexte politique qui est négatif pour la parole de l'Église en ce moment. C'est un contexte politique négatif en général, parce que le contexte médiatique est plutôt négatif, parce qu'il y a une sorte de crise de confiance par rapport à l'Église, par rapport à la politique, par rapport à toute autorité. C'est pas simplement l'Église là-dedans, mais par rapport à toute autorité. Il y a en général une assez mauvaise opinion des politiques. Bon, il y a une pression de l'extrême droite qui se fait très forte. Il y a le danger du terrorisme qui vient troubler le débat. Et ça, il faut toujours s'en rappeler, parce que ça crée de la passion assez fortement. Il y a une sorte de contrat social dans le pays qui ne va plus de soi, en particulier parce que c'est l'individu qui commande, c'est l'individu qui veut imposer sa propre raison, et le contrat signé de manière globale entre les citoyens n'est plus tellement respecté parce que c'est l'individu qui veut essentiellement faire entendre sa parole. Et l'individu, disons, son expression prime sur toutes les expressions collectives. Puis en plus, il s'appuie sur la télévision. Par exemple, il dira « Ah ben j'ai vu à la télé, j'ai écouté à la télé ceci, donc c'est vrai, même s'il n'y connaît rien lui-même. » Voilà. Donc c'est l'idée que l'individu s'engage fortement et prime sur les points de vue communs. En plus, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés depuis l'an 2000. Par exemple, une nouvelle visibilité des religions. Surtout certains problèmes religieux ressortent, et notamment la question du voile ressort. Vous voyez, l'hystérie actuelle autour du voile de la déléguée de l'UNEF, de la porte-parole de l'UNEF, c'est quand même assez typique d'une situation française où on monte en épingle un sujet particulier, alors que ça n'est quand même qu'un épiphénomène, c'est pas quelque chose d'extrêmement grave. Mais en même temps, symboliquement, on voit bien que ça prend des proportions tout à fait considérables dans l'idée de cette visibilité des religions. La montée des fondamentalismes, qui est évidente, hein, c'est pas simplement un voile ici ou là, c'est il y a des groupes de fondamentalisme musulmans, il y en a aussi des chrétiens, il y a des fondamentalistes évangéliques, c'est quand même un courant général qui touche la France, et pas seulement la France. Mais ça fait partie des transformations. Et ces transformations ont provoqué souvent un refus de la présence des religions dans la vie publique. Bon, c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'intitule « La religion excommuniée », c'est la religion dont on ne veut pas sur la place publique. Mais ça fait partie de ces transformations relativement récentes. Alors, c'est assez curieux, c'est que ce texte des évêques de 2016, de juin 2016, a été relativement bien accueilli par la majorité des catholiques, mais aussi par l'opinion publique. Même le journal Libération, qui est quand même peu suspect d'être favorable à l'épiscopat, a titré « Messieurs les évêques, la République vous remercie ». Ce n'est pas tous les jours que le journal Libération dit ça, mais ça voulait dire qu'ils avaient le sentiment que, dans leur texte, les évêques avaient touché des questions fondamentales, qui sont des questions importantes pour tout le monde, pas simplement pour les catholiques. Alors voilà, Donc contexte politique, contexte médiatique négatif, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le sentiment que l'on passe d'un monde politique à un autre, dans les, disons, 50 dernières années, ou un peu plus. Voilà. Le diagnostic qui était posé dans ce texte-là note que la question du sens a peu à peu déserté le débat politique. On perçoit une sorte de changement, un grand changement dans les 50 dernières années. On avait l'impression à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'il y avait une sorte de politique rationnellement organisée, qui prévoyait l'avenir, qui autour de, par exemple, du commissariat au plan, pouvait faire des plans sur 20 ou 30 ans, avec une sorte de gestion de la croissance, un développement qui pouvait se poursuivre de manière prévue selon les plans. Bon, ce bel édifice rationnel et logique s'est écroulé dans les années, s'est écroulé dans les années 70 avec le choc pétrolier, avec la montée du chômage, avec une capacité de gestion du groupe social que représente l'ensemble des Français, une capacité de gestion plus difficile, qui s'étiole petit à petit, et au fond, les gouvernements qui n'arrivent plus à répondre aux pressions de l'opinion. Du coup, on passe à une sorte de gouvernance au jour le jour, dont certains gouvernants avaient fait presque une doctrine qui est de regarder le rétroviseur, c'est-à-dire on voit dans le rétroviseur l'effet de telle ou telle mesure, et alors on change la politique si ça ne provoque pas ce qu'on attendait. Ça, c'est quand même la gouvernance au jour le jour. C'est pas la gouvernance d'un plan tout fait par avance. Et c'est souvent une gouvernance qui doit affronter les émotions successives. Donc il faut répondre à des vagues d'émotions successives qui traversent le pays, éviter les heurts les plus graves, gérer les problèmes économiques et sociaux dans l'immédiat, en espérant que l'on pourra continuer à évacuer comme ça les crises les unes après les autres. Et puis tout ça sous la pression médiatique, c'est-à-dire que la pression médiatique, c'est une pression continuelle, une pression quotidienne qui nous fait prendre de la distance par rapport à une sorte de développement plus large, plus organisé que l'on pourrait espérer. Donc l'idée, ce grand changement politique, c'est le changement d'une économie et d'une politique planifiée et organisée à des moments d'émotion, une gouvernance qui est sous l'influence des médias et qui parfois n'a pas beaucoup de vision. Donc le passage de l'un à l'autre pose problème et est souligné par les évêques dans leur texte. Alors, un troisième point, c'est autour des thèmes mondialisation et identité. Alors, on paraît être plus loin que d'une politique immédiate, mais je pense qu'il faut aller fondamentalement dans ces changements, parce que ce sont des changements culturels qui deviennent plus importants que les changements sociaux, ces changements culturels. La question de l'identité d'une nation, d'un groupe, d'une communauté, elle devient plus forte à cause de la mondialisation dont nous faisons tous l'expérience, qui évidemment transforme l'ensemble du schéma politique quotidien. Donc cette question de l'identité est posée à tout le monde. Elle mobilise les foules, mais elle peut aussi diviser les foules. Elle peut diviser. Le Brexit, c'est quand même une décision prise par les Britanniques en 2016, juin 2016, qui portait essentiellement sur la question de l'identité des Anglais au milieu de l'Europe et dans la mondialisation. Alors, on voit que l'idée d'une nation homogène est de plus en plus bousculée par la mondialisation, bousculée aussi par l'arrivée de migrants, qui sont nombreux, et qui, localement, peuvent changer l'atmosphère. Donc, identité, mondialisation. Mouvement de population, multiplication des influences qui déstabilisent les citoyens, et on voit, comme le disait ce document, une insécurité culturelle se produire. Et ça, c'est un point très important, parce que cette insécurité culturelle peut pousser des citoyens à prendre des options extrêmes pour défendre peut-être d'ailleurs quelque chose d'imaginaire. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'ils veulent défendre quand ils vont vers les extrêmes pour défendre des identités, mais cette insécurité culturelle jette ce trouble et donc risque de pousser des gens vers l'extrême et pose la question du contrat social habituel des Français avec leur propre tradition qui est en train de changer. Donc voilà, identité, est-ce qu'on change? Mondialisation, est-ce que l'on laisse tout faire? Bon. Alors, souvent la question n'est pas directement des migrants, mais des effets, c'est-à-dire la diversité. Bon, moi, à Marseille, je suis quand même bien placé, hein, parce que à Marseille, on a, sur 950 000 habitants, on a 280 000 musulmans, 90 000 arméniens, 50 000 juifs, donc c'est une ville de l'extrême diversité. Alors, la question de cette diversité, c'est ça qui apparaît souvent comme une menace. Et il y a là un problème qui se lie alors avec la sécurité. Donc les gens se trouvant moins sécurisés par rapport à leur identité ou ce qu'ils en imaginent, risquent de vouloir s'attacher à un passé ou alors à des solutions radicales. Donc le citoyen français se pose la question, qui est-on et comment fait-on avec cette nouvelle diversité? Il n'y a pas d'espèce d'a priori contre, mais qu'est-ce qu'on fait? Et on n'a pas de réponse immédiate, et le citoyen est troublé. Et alors il est invité à faire une sorte de redéfinition de la citoyenneté pour l'approfondir, et c'est là que le diagnostic de l'Église est tout à fait capital. Quel sens y a-t-il à vivre ensemble? Et comment est-ce que nous allons pouvoir revivre un vivre ensemble nouveau avec tous ceux qui se présentent dans la diversité nouvelle que nous vivons? Et c'est là qu'ils disent, et c'est là où leur parole est forte dans le débat politique, il faut retrouver un sens à la vie collective, il faut reconstruire ce sens de la vie collective pour retrouver une certaine identité ou une nouvelle identité. D'ailleurs, on pourrait appliquer le même débat sur la construction européenne. L'impression a souvent été que le projet européen se perdait dans une gestion administrative ou dans un élargissement un peu sans limite, sans qu'on sache exactement le sens de cette politique européenne. Voilà, donc pour poursuivre une politique européenne, il faudrait que l'Europe soit plus claire sur ce qu'elle est, quelle identité collective elle propose, pour éviter qu'il y ait des renfermements sur des identités particulières, comme on le voit en ce moment en Pologne, en Hongrie et dans un certain nombre de pays de l'Est, qui curieusement ne reçoivent pratiquement aucun migrant. Donc c'est plutôt le fantasme et la peur qui créent chez eux cette espèce de repli identitaire. Quatrièmement, une démocratie en tension. Donc c'est l'idée que nous sommes dans une démocratie qui est de plus en plus tendue. Il faut analyser cette espèce de disjonction qui se produit de plus en plus entre les appareils politiques, c'est-à-dire parlement, administration, système judiciaire, éventuellement les médias, et de l'autre côté, l'expression des citoyens, le ressenti des citoyens, le ressenti, c'est ça qui est important, c'est ce qu'ils ressentent, c'est peut-être pas ce qui est objectif, on ne sait pas, mais c'est ce qu'ils ressentent, la manière dont ils le vivent, et le sentiment de plus en plus grand, une sorte d'injustice qui frappe le citoyen ordinaire. Et au fond, il se retrouve, ou il pourrait se retrouver, dans les marges, ou comme on dit, au bord du monde, je suis au bord, et voilà, je ne trouve pas ma place dans ce monde-là. En plus, on a une judiciarisation croissante de nos sociétés, avec de multiples normes, de multiples règlements, donc qui étouffent complètement la capacité de créativité, la capacité de liberté. Donc il faudrait pouvoir trouver un équilibre entre la volonté de sécurité d'un côté, ce qui est tout à fait compréhensible, et en même temps la protection des libertés et des libertés fondamentales de circulation, par exemple. Donc on est en tension permanente, il est difficile de trouver des solutions parce que chacun risque de se replier sur soi. Et les évêques disent ceci, on ne supporte guère toute parole émanant d'une autorité quelle qu'elle soit. Donc si en plus on nous dit qu'il faut penser comme ça, alors c'est sûr que ça ne sera pas compris. Et en plus, alors, les réseaux sociaux en rajoutent dans une espèce d'immédiateté, puisqu'il faut répondre tout de suite à la nouvelle qui vient de surgir, ou à la nouvelle image qu'on a vue. Et évidemment, cette arrivée des réseaux sociaux en rajoute sur la tension à l'intérieur de la démocratie. Les évêques disent ceci, les progrès technologiques immenses de ces dernières décennies ont des incidences sur notre manière de faire société. Je crois qu'il ne faut pas là-dessus être naïf, ça a un effet évident sur la manière de faire société, c'est-à-dire la manière de nous relier avec nos proches et nos voisins. Donc on pourrait illustrer tout ça par une observation sur la manière dont certains politiques ou certains candidats voudraient dépasser les appareils d'État, par exemple éliminer le ministère de la Justice ou passer par-dessus le ministère de la Justice pour s'adresser aux Français et dire qu'ils ont raison alors que la justice est à leur trousse, c'est-à-dire qu'on veut faire une sorte de populisme à travers la télévision pour éviter les corps intermédiaires. Donc démocratie en tension, de multiples formes, je pense qu'il faut garder ça en esprit. Cinquième point, crise de la parole ou la question du statut de la vérité. Je ne vais pas faire de la philosophie, parce que ici on est plutôt à un niveau pratique. Le statut de la vérité, c'est le statut du discours politique en rapport à son rapport à la vérité. Donc les débats, beaucoup de débats montrent qu'on a dépassé les simples jeux de mots ou l'usage d'une sorte de rhétorique. On a des candidats, il y a 2 ans, aux États-Unis, voire en France, qui ont affirmé des mensonges avec un aplomb total. Et le problème, c'est que cette habitude finit par avoir un impact sur notre conception de la vérité. On ne sait plus qui dit vrai et ce qui est vrai. Et si vous allez voir sur les réseaux sociaux, c'est difficile de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Et donc la parole de l'Église, elle vient dans ce contexte-là. La presse avait inventé, il n'y a pas longtemps, le concept de fait alternatif. Ce n'est pas tout à fait un fait, c'est un fait alternatif. C'est-à-dire que ce n'est pas un fait tout à fait réel, mais il aurait pu se produire. Et puisqu'il aurait pu se produire, il devient réalité. Alors, par exemple, le débat sur les réchauffements climatiques, c'est tout à fait une illustration. Le doute est instillé par quelques semi-vérités, voire des erreurs grossières que l'on assume, que l'on prononce avec détermination, et voilà, ça devient une vérité. Et puis si vous mettez les experts entre eux, ça n'arrange pas toujours le débat, parce que vous trouvez toujours un expert qui est contre l'avis des autres. Donc, et alors qu'est-ce qui va expertiser les experts? Donc ça devient très compliqué. N'empêche que la victoire du Brexit, elle a été en partie, et les gens qui ont gagné le Brexit l'ont dit après, on a menti sur certains points. On a menti effrontément sur certains points. Donc on a trompé l'opinion. À une époque aux États-Unis, on disait que Obama était un musulman et qu'il n'était pas né aux États-Unis. Et ça, c'est des choses qui ont couru pendant des années. Et il a fallu que Obama montre son acte de naissance à la télévision pour dire non, ben vous voyez. Bon. Mais Voilà. Le statut de la vérité, là, évidemment, fait défaut. Et c'est le doute qui règne. Le problème, c'est que le public n'a plus les moyens de savoir ce qui est vrai. Des rumeurs sont lancées sur les réseaux sociaux, parfois exprès. Hein. Donc ça sème le trouble. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bon, tout ça crée une vraie crise de la parole. Les mots perdent leur sens. On ne sait plus qui croire, on ne sait plus quoi croire. Et alors, comment tenir un discours politique? C'est une vraie question. Alors, c'est là que le discours de l'Église est capital, parce qu'il doit être absolument crédible. S'il n'est pas crédible, évidemment, tout s'écroule. Toute sa crédibilité s'écroule. Donc la crise de la parole est profonde. Voilà, ça c'était le cinquième mot. Sixièmement, il faut tout, retour à la laïcité. C'est-à-dire qu'il faut toujours revenir à la laïcité, parce que c'est dans les rapports de l'État et de l'Église, dans le statut de cette parole, à un moment clé. L'Église a toujours dit qu'elle était favorable à la laïcité traditionnelle de 1905, qui a stabilisé les relations avec l'État. Ce qui est capital, c'est de dire que la laïcité, en ce sens, n'est pas une valeur. La laïcité, ça ne veut pas dire que le pays doit être laïque, anti-religieux. La laïcité, c'est un principe juridique, qui doit rester un principe juridique, pour être un principe de séparation entre les églises et l'État. Et les évêques le disent bien, elle ne doit pas dépasser son objectif en voulant devenir un projet de société. La laïcité n'est pas un projet de société. C'est-à-dire l'idée d'avoir un drapeau, une devise qui serait liberté, égalité, fraternité, laïcité, c'est purement un détournement de la laïcité. La laïcité, c'est un fait juridique qui sépare les domaines, mais ça n'est pas une valeur en soi qui devrait accompagner l'ensemble de la République. Les valeurs, elles sont dans la liberté, l'égalité, la fraternité. Parce que le danger d'en faire une valeur, c'est qu'en fait, on veut neutraliser la place publique de la religion en l'expulsant, puisque à ce moment-là, ce serait la laïcité qui commanderait la vie publique. Alors évidemment, il faudrait pouvoir parler paisiblement de la religion en acceptant simplement que les religions ont le droit d'avoir une parole publique, ont le droit d'occuper l'espace public. C'est une association comme une autre. Elles ont le droit de s'exprimer dans l'espace public. Elles ont le droit de participer au débat national. Je pense que c'est la liberté fondamentale d'un groupe aussi important que celui des chrétiens qui est là en jeu. Et c'est derrière la liberté religieuse qui est en jeu. C'est-à-dire ceux qui veulent supprimer la place publique, le discours public de l'Église, c'est une manière d'empêcher ou de freiner la liberté religieuse. Donc il faut toujours revenir à la laïcité de 1905, à ce principe juridique qui respecte la liberté d'expression des religions dans l'espace public, y compris dans les universités. Et c'est pour ça que cette jeune femme qui met son voile, elle a le droit de mettre son voile. Et les interprétations qu'ont fait aussi bien le ministre de l'Intérieur qu'un autre ministre, en faisant des considérations sur les femmes soumises, etc., c'est hors du propos. Peut-être qu'il peut avoir une conversation avec cette femme, mais elle a le droit de manifester en public sa religion. Elle n'a pas le droit dans les écoles secondaires, mais l'université, c'est encore un droit qui est respecté. Voilà, donc il y a un problème de la laïcité et de cette expression libre de l'Église en ce moment à cause de la difficulté posée par des gens qui voudraient d'une certaine manière imposer ce sentiment anti-religieux à l'ensemble du pays. Alors, septièmement, donc c'est mon dernier point avant de passer à mes commentaires sur le discours du président de la République. Septième point, c'est jusqu'où intervenir dans le débat politique. Alors ça, c'est une question qui est très délicate. parce que la question se pose au moment de l'intervention de l'Église. Voilà. En juin 2016, on était loin des échéances politiques, de l'élection qui avait lieu en mai 2017. Donc les évêques avaient tout le droit de faire un commentaire sur la situation générale de la France, voilà, laissant toute la liberté aux catholiques d'interpréter, de le lire. J'espère que vous l'avez tous lu en détail. Parce que si vous ne l'avez pas lu en détail, vous pouvez leur lire, c'est pas mauvais. Mais alors, à ce moment-là, ne venez pas ne vous plaindre que vous ne savez pas quoi faire. Ou vous plaindre que les évêques ne parlent pas clairement. Ils sont très clairs dans ce texte. À vous d'être intelligent et à partir de là, de prendre vos décisions. Mais si vous ne lisez pas ces textes qui sont quand même assez bien écrits et relativement lisibles, ce n'est pas quand même très compliqué, ne vous plaignez pas de ne pas savoir quoi faire quand vous êtes devant des échéances. Alors il y a eu en effet un débat un peu compliqué, puisque entre les deux tours, après le 23 avril, il n'y avait plus que deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et évidemment, on a interrogé les évêques en leur disant « Bon, alors, vous allez quand même prendre parti. Hein. Vous ne pouvez pas laisser ce débat se dérouler sans prendre parti. » Et c'est vrai que les évêques n'ont pas pris parti, n'ont pas voulu condamner l'un pour approuver l'autre, et que cette distance a été critiquée par un certain nombre de catholiques qui espéraient une condamnation explicite du Front National. Ce qui est sûr, c'est que le Front National avait été condamné en 2002 avec Jean-Marie Le Pen, mais Marine Le Pen, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen, et en plus de 15 ans, le Front National avait quand même relativement changé. Alors, fallait-il, cette fois-ci, faire la même remarque que 15 ans plus tôt? Ça a été un débat parmi de nombreux catholiques, qui touche en fait aux modalités et à l'autorité de l'enseignement social de la hiérarchie catholique. Et ceux qui ont lu l'ensemble du texte des évêques n'avaient aucun doute sur la position des évêques. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise. Et comme disait Sylvie Goulard, ce serait bien qu'on apprécie la réserve des évêques qui ne sont pas là pour donner des ordres aux catholiques. Donc, alors, on conçoit que, voilà, on peut discuter, mais il ne faut pas non plus attendre trop de précisions quand l'éclairage est clairement donné par de multiples prises de position, notamment sur l'immigration. Les positions des évêques étaient très claires et n'étaient évidemment pas celle de Marine Le Pen. Donc il n'y avait aucune espèce d'ambiguïté là-dessus. Il faut se redire que l'enseignement des évêques, c'est de donner des principes de réflexion, donc il faut les lire, ces textes, donner des critères de jugement pour analyser la situation dans laquelle nous nous trouvons, et éventuellement donner quelques directives d'action. Je dis éventuellement, parce que ce n'est pas non plus dire ce qu'il faut faire. Il revient aux chrétiens, aux laïcs chrétiens, sur le terrain, d'être vraiment, de prendre leurs décisions et d'organiser leurs décisions selon l'ensemble de ces principes et de ces critères. Voilà. Donc, alors maintenant, j'en viens à la troisième partie que je vous avais annoncée, qui était au fond le point de vue du président de la République sur ce débat et cette place de la religion dans le débat public. Bon, moi j'ai écouté le discours des Bernardins, aux Bernardins à la télévision, je l'ai lu et je l'ai fait travailler dans des groupes qui travaillent sur les questions de la laïcité. Et ça a été extrêmement intéressant. Parce que, en le lisant et en le débattant, les chrétiens avec qui j'ai fait ça, se sont aperçus de l'importance de ce discours et, j'allais dire, de l'épaisseur de ce discours. Je pense qu'on en saura peut-être plus sur les positions de M. Macron par rapport au rôle du catholicisme, puisqu'il va aller au Latran pour recevoir son titre de chanoine du Latran. C'est une tradition depuis Henri IV. Président de la République et chanoine du Latran. Donc un certain nombre de présidents y sont allés au Latran, d'autres n'y sont pas allés. Alors Sarkozy y était allé, et c'est vrai que ça avait été l'occasion pour Sarkozy de dire un peu ce qu'il pensait du système de laïcité en France. C'est là où il avait pris cette expression de la laïcité ouverte. Voilà. Alors, au Bernardin, Mgr Pontier, donc le président de la Conférence des évêques de France, a justifié cet accueil du président de la République en disant que on avait trop souvent reproché aux catholiques d'être discrets sur la scène politique, ce qui peut s'expliquer par le fait que longtemps l'Église catholique était tellement présente sur la scène publique qu'elle n'avait pas besoin de s'exprimer. Tout le monde savait ce qu'elle pensait. Mais maintenant, sa présence est beaucoup plus réduite, même sociologiquement. Donc, il est temps qu'elle s'exprime plus explicitement dans le monde médiatique et devant l'ensemble des médias et des Français. Donc, Mgr Pontier a justifié cet accueil sur cette raison. Alors, il a commencé, lui, par un discours, le président de la conférence, par un discours en insistant sur les contributions de l'Église à la vie collective, en mettant en garde sur deux sujets qui étaient bien précisés, sur lesquels on connaît bien la position de l'Église, la question de la bioéthique et la question des migrants. Voilà. Alors après ça, il revenait à M. Macron de s'exprimer. Alors, je ne veux pas ni approuver ni désapprouver la politique de M. Macron. Je garderai ça, ce débat, pour vous. Vous discuterez ça entre vous. Ce n'est pas mon problème. La question, c'est le discours. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce discours? Ce qui est intéressant, c'est qu'il présente l'État et l'Église en situation de partenaires. Des partenaires qui appartiennent à deux ordres institutionnels différents, qui relèvent chacun d'une juridiction particulière, et il le dit, l'Église étant dépositaire d'une révélation bien spécifique par rapport à l'État. Donc il y a une différence, ce n'est pas simplement deux ordres équivalents, c'est deux ordres différents. Et en plus, pour le président de la République, le catholicisme a une nature spécifique parce que, bon, il a une tradition très longue d'avoir accompagné la République, plutôt difficilement au début, puisque le Vatican a quand même dénoncé les accords non seulement 1789, mais même 1905. Donc ça a été plutôt très pénible au début. Mais après, le catholicisme s'est intégré à la République, a accepté les principes de la démocratie constitutionnelle, même si c'est, il le dit, une institution qui déborde largement les frontières, puisqu'elle a des représentants dans le monde entier, et qu'elle est beaucoup plus large qu'une simple institution française. Voilà. Alors, avec ces différences, donc l'État d'un côté et l'Église catholique de l'autre, les deux institutions ont, selon lui, un rôle qui va au-delà de la simple gestion de la vie collective. Je cite, « Nous savons que notre tâche est de faire vivre le souffle de ce que nous servons et d'en faire grandir la flamme. » Alors, il évoque la part catholique de la France, et je cite, « qui, dans l'héritage séculier, instille tout de même la question intranquille du salut que chacun, qu'il croit ou ne croit pas, interprétera à sa manière. » Donc, dans l'horizon séculier, instille tout de même la question intranquille du salut que chacun, qu'il croit ou ne croit pas, interprétera à sa manière. Donc il tient tout à fait compte du fait que des gens ne croient pas, mais il dit qu'il y a quelque chose au-delà de l'horizon de la gestion, qui est du salut collectif, de la vie collective, de la vie ensemble, que nous devons nous poser ensemble, que les deux institutions doivent se poser ensemble. Et alors il demande à l'Église de lui faire don de trois choses, le don de la sagesse, le don de votre engagement, le don de votre liberté. C'est quand même un langage tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'un président de la République demande à l'Église de lui faire le don de la liberté, alors que la République a copieusement attaqué longtemps l'Église parce qu'elle était contre la liberté, ce qui pouvait paraître vrai. Maintenant, il demande à l'Église de lui faire le don de votre liberté. À travers cette demande, je pense qu'il exprime un appel que l'Église participe au service de la nation parce qu'il s'inquiète, comme il dit, des décrues de la solidarité. Il y a tout un paragraphe très long sur le fait que, par une transformation sociologique de la nation, le lien social se délite et il y a une sorte de décrue de la solidarité. Et c'est là que les religions, et en particulier le catholicisme, a des choses à dire. Parce que pour lui, il y a, dans ce décru de la solidarité, il y a une sorte de désengagement des citoyens, et il dit d'un relativisme généralisé, d'un grand doute. Il y a un grand doute qui s'installe dans l'esprit de beaucoup de Français. Et devant ce risque, l'Église a un rôle, parce que je cite, « parce que vous êtes une part du ciment même de notre cohésion nationale. » Vous êtes une part du ciment même de notre cohésion nationale. Donc, il faut bien entendre cette phrase qui dépasse l'engagement social de l'Église, qui a été toujours très solide et qu'il reconnaît, pour aider les pauvres, pour aider la part la plus fragile de la société. Mais là, l'Église est invitée à participer à la construction de cet esprit commun qui fait vivre une démocratie. Ça, c'est dans la tradition de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas simplement voter le jour du vote. La démocratie, c'est un esprit. Ça, c'est vieux, c'est Tocqueville qui a expliqué ça très bien. Ben voilà, il dit, l'Église catholique a quelque chose à construire à l'intérieur même de cet esprit démocratique et à porter sa part. Et donc, c'est pour cela que le président de la République demande aux catholiques de s'engager dans la politique. Et je cite, « La politique a besoin de l'énergie des engagés, de votre énergie, elle a besoin de l'énergie de ceux qui donnent sens à l'action et qui placent en son cœur une forme d'espérance. Il s'agit de faire exister dans le réel les principes fondamentaux qui structurent la vie morale, intellectuelle et, dans le cas précis des croyants, la vie spirituelle. » Donc c'est faire exister au cœur même de cet esprit démocratique quelque chose qui est de l'ordre de l'espoir de vivre ensemble demain avec un certain nombre de valeurs qu'il faudra défendre évidemment sur le terrain. Et il dit, il y a une place à prendre face au vide que l'on peut ressentir en politique. Bien des discours politiques sont trop souvent des discours de circonstances, des discours sur « Ah, la croissance augmente ». Bon, très bien, la croissance augmente, ça c'est très bien. Mais enfin, il n'y a pas que la croissance. La question de l'identité, la question de l'individualisme, toutes ces choses-là, ça c'est peut-être plus important encore que la croissance. Il y a une place à prendre face au vide que l'on peut ressentir en politique, c'est celle qui exprime la flamme commune qui fait partie de notre histoire et qui a toujours guidé notre pays. Le retrait ou la mise sous le boisseau de cette lumière n'est pas une bonne nouvelle. Il y a vraiment une sorte d'appel très fort à l'Église catholique. Puis il parle aux catholiques. Hein. Il dit d'autres choses aux juifs et aux musulmans. Mais là, il parle aux catholiques. Voilà. Il demande, je cite, « que ceux qui travaillent au cœur de la société française, ceux qui s'engagent pour soigner ses blessures et consoler ses malades, aient aussi une voix sur la scène politique. » D'où l'idée de demander aux catholiques de s'engager sur la scène politique. Donc, en fait, le discours de Macron ne marque pas une rupture dans les principes de la laïcité. Il respecte la laïcité, il ne donne pas d'ordre. Et il respecte l'Église dans sa liberté. Mais c'est vrai que les présidents précédents ont parlé de pratiques de dialogue, de mobilisation du religieux au service du bien commun. Et on a vu comment, par exemple, Mitterrand, en 1983, avait demandé aux religions de participer au Comité consultatif national d'éthique parce que leur voix est importante dans des domaines comme ceux de l'éthique. Mais on voit qu'avec Macron, on va aux sortes plus loin dans la contribution d'une clarification et d'un renforcement des fondements de la contribution des églises à la manière de vivre ensemble. Il est conscient du délitement de la société par l'individualisme, par des forces qui sont difficiles à maîtriser, la mondialisation, le libéralisme ou l'individualisme excessif. Et alors il en appelle à l'Église pour renforcer les liens à l'intérieur même de la nation. Je pense qu'il approfondit ce que ses prédécesseurs avaient commencé, mais il lui donne une espèce d'épaisseur beaucoup plus forte. C'est vrai qu'on disait, dans les années 90, on disait que trois ou quatre religieuses dans une barre d'immeubles valaient mieux qu'une brigade de police. Ce n'est pas parce que les religieuses faisaient la police, mais c'est parce qu'elles créaient, dans la barre d'immeubles, une ambiance, une relation, une sorte de connaissance des gens entre eux qui était plus important que n'importe quel type de contrôle social qu'on aurait pu effectuer. C'était une sorte de présence de l'intérieur. Et c'est vrai que le départ successif des religieuses faute de relève fait partie des problèmes des quartiers sans âme. Il y a une réalité. C'est pas qu'elles faisaient tout, hein, mais elles apportaient quelque chose de tout à fait capital. Alors je conclue brièvement. C'est vrai que la place de l'Église dans le débat politique apparaît relativement simple. Hein. Elle n'est pas extérieure au jeu collectif. Elle doit laisser la vie politique se développer sans intervenir. Ce n'est pas à elle à choisir des candidats, quels qu'elles soient, ou intervenir dans les élections, mais en même temps, elle doit manifester ses options sur toutes les questions de fond qui sont discutées, et c'est pour ça qu'il y a ces interventions sur la bioéthique ou sur le migrant. Mais en même temps, on voit qu'elle est sollicitée pour beaucoup plus que les choix éthiques. Elle est appelée à être une présence qui interroge sur le sens de la vie commune, qui interroge, c'est pas elle qui va le faire, c'est pas elle qui va l'obliger, mais qui interroge sur le sens de la vie commune, qui interroge sur les dimensions d'espoir, sur les aspirations de tout homme, pour que nous ne soyons pas simplement une sorte de civilisation matérielle où chacun se bat contre les autres pour avoir une part du gâteau un peu plus grande. Et dans ce sorte de pas en avant qui est fait, la laïcité de 1905 n'est pas bafouée par cette demande, parce que les séparations restent claires. Mais la manière de parler doit être plus vigilante pour respecter les opinions, les options de chacun, tout en trouvant les mots, les occasions. Donc il faut que l'Église aussi fasse attention à la manière dont elle parle. Mais voilà, parler de manière à ce que des sujets de fond soient traités, comme ça a été fait en juin 2016, parler d'identité, parler de culture, c'est peut-être plus important même que de parler de morale. Et c'est pour ça que le texte des évêques de juin 1976 entrait bien justement dans ce propos de ce nouveau langage de l'Église dans la politique. Encore faut-il évidemment connaître ces textes, mais je suis sûr que vous allez désormais les étudier. Merci de votre attention.